francebleu.fr. Radio Classique, l'invité du soir de Patrick Poivre d'Arvor.
Cet invité est Pascal Pavageau. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on ne connaît pas forcément votre nom, mais quand on dit secrétaire général de Force Ouvrière, ça marche. Quand on dit successeur de Jean-Claude Mailly, ça marche aussi. Donc, voilà. Mais de toute façon, c'est ça le principe, c'est qu'il faut se faire connaître.
Absolument.
Et c'est une occasion en vous recevant donc à Radio Classique ce soir. On va commencer par la SNCF, parce que c'est un sujet qui concerne évidemment beaucoup. Alors, vous dites, vous, les cheminots, je vous ai entendu ce matin le dire, mais également les usagers.
Bien sûr.
Et notamment, par exemple, en ce moment, là, pour les bacheliers ou ceux qui veulent l'être, c'est pas agréable.
J'en ai une à la maison qui passe le bac, bien évidemment. Quand on est usager, toute grève des transports est problématique et de surcroît quand on va passer une épreuve aussi importante. Donc, bien évidemment, je crois que l'ensemble des cheminots, personne ne fait grève par plaisir. D'abord, pour soi-même et la perte d'argent que cela représente en termes de salaire. Et puis, pour les contraintes que ça représente, tant pour eux que pour l'ensemble des usagers. Ce sont des gens qui sont amoureux du service public de transport de personnes. Et évidemment, personne ne fait grève par plaisir.
Mais Pascal Pavageau, à quoi ça sert là? 32e journée aujourd'hui,
oui, mais justement,
10% de grévistes seulement.
Justement, aujourd'hui, on est passé dans une phase où le gouvernement a imposé dogmatiquement par la loi de casser le statut des cheminots. Et il renvoie
pour
une
ceux
hypothétique.
Qui vont être en,
non,
engagés.
Pas uniquement parce que ceux qui vont se retrouver dans des entreprises privées du fait de l'ouverture à la concurrence vont perdre de facto à un moment donné, leur cadre statutaire, ça va être une logique de clapet en tire-tout. Donc sur les 127 000, on ne sait pas combien seront concernés, mais un certain nombre, ou un nombre certain, seront concernés. Donc le problème, c'est que une fois que vous avez détruit, une fois que le gouvernement a détruit le statut, il renvoie sur une hypothétique convention collective qui doit être négociée. Et vous avez une première réunion vendredi où le patronat dit « Je ne suis pas là pour négocier, je suis là pour appliquer la loi ». En gros, je suis dans une position de force, vous êtes tout nus, les cheminots, on vous a cassé votre statut de par la loi, et donc je vais vous laisser des miettes et une convention collective au rabais. Eh bien, le fait de maintenir la mobilisation, le fait qu'ils maintiennent, alors qu'ils sont exténués, la grève et la mobilisation, c'est le dernier moyen
mais
qui leur reste pour faire pression sur justement la négociation à venir.
Vous voyez bien que vous n'avez pas l'adhésion de la plupart des Français, contrairement à d'autres conflits sociaux.
Je connais pas de grève, surtout de grève dans les transports qui concernent des usagers et de surcroît qui soient longues, qui puissent être populaires.
Celle de 95 est beaucoup plus populaire.
Oui, c'était encore dans un contexte qui était particulier parce que d'autres éléments étaient attaqués. Des éléments plus fondamentaux et plus généraux étaient attaqués, j'allais dire plus sociétaux. Là, en l'occurrence, bien évidemment, ils défendent avant tout leur statut, leur cadre collectif. Donc, bien évidemment que la grève, dans ces cas-là, n'est pas populaire. Mais c'est le dernier élément qu'il leur reste pour tenter d'essayer de négocier ou d'obtenir des miettes sur le champ de ruines que le gouvernement a créé en cassant dogmatiquement, encore une fois, idéologiquement leur statut. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rien n'imposait au gouvernement de toucher au statut des cheminots. Et si on avait écouté ce que nous proposions, à savoir, dès le mois d'avril, qu'il y ait un mois de négociation et sans destruction du statut, mais au contraire, en élargissant le statut, alors ça fait bien longtemps que la grève serait terminée.
Mais est-ce que la forme de la grève, finalement, a pas été au début, on a dit, c'est un bon coup, deux jours tous les cinq jours, mais finalement, est-ce que c'est pas pour vous quelque chose qui... Bon, voilà, chacun s'en est arrangé à sa manière et ça n'a pas impressionné.
Ils ont tenté. D'abord, ils ont fait des assemblées générales, ils ont voté, ils ont décidé avec les cheminots leur modalité d'action. Ils ont choisi celle-ci, qui était effectivement, on va dire, originale en tous les cas.
Novatrice
et quelque part innovante. Ils s'y sont tenus et au final, ils y sont toujours. Ils y sont toujours, ce qui montre bien que quelque part, sur certains aspects, ça a fonctionné. Et en plus, ça leur a permis quand même de faire pression sur un certain nombre de mesures et encore une fois de rentrer dans la négociation le moins mal déshabillé possible, eu égard à ce que vient de faire le gouvernement, à savoir encore une fois casser leur statut.
Même si FO ne fait pas partie de l'intersyndicat des cheminots.
La fédération FO des cheminots est représentative dans la branche, comme on dit, et depuis le début,
on dit souvent qu'ils sont plus cheminots que FO, ceux-là, les vôtres.
Ah, je crois qu'ils sont FO et cheminots, mais vous savez, n'importe quel salarié, il est d'abord salarié ou travailleur. Après, bien sûr, il est militant, il est adhérent, par exemple, à Force Ouvrière, il est militant à Force Ouvrière, mais encore une fois, vous savez, nous, chez nous, à Force Ouvrière, ce sont les syndicats qui décident, c'est les assemblées générales qui décident, c'est pas la Confédération qui, d'un claquement de doigts, explique à celles et ceux qui sont en mouvement ou ne le sont pas, ce qu'ils doivent faire ou s'ils doivent penser.
Mais la question que je voulais vous poser, c'est celle-ci, est-ce que vous soutenez la proposition de la CGT qui envisage 3 nouveaux jours de grève, et c'est quand même le 2, le 6, le 7 juillet pour les grands départs en vacances?
Je soutiendrai la décision que prendra la Fédération FO des Cheminots. Si la Fédération FO des Cheminots continue le mouvement en lien avec les appels des uns et des autres, bien évidemment, elle aura le soutien
permanent
de la Confédération.
Vous les conseiller dans un sens ou dans un autre.
Mais dans ce cas-là, oui. Permettez-moi de ne pas le faire à votre antenne, mais d'avoir une discussion en interne à Force Ouvrière.
Alors, prochain gros dossier auquel le gouvernement a annoncé devoir s'attaquer, les retraites, avec de gros changements en perspective, notamment la fin des régimes spéciaux, puis la mise en place d'un système à points à partir de 2025. Alors, j'ai résumé un petit peu brièvement. Ça vous fait peur, cette réforme ?
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a demandé, personne n'est demandeur d'une logique de passage à une retraite par points. Aujourd'hui, on va dire notre modèle collectif de répartition, ben c'est l'annuité, comme on dit, c'est l'année ou le trimestre, et c'est un droit collectif sur lequel se base, ou c'est un cadre collectif sur lequel se base l'ensemble de nos régimes. Il y a un système, du coup, de redistribution, de solidarité, qui permet d'être mené, y compris parfois entre les régimes pour l'ensemble. Des actifs au moment où ils partent en retraite. Là, on passe de façon totalement, encore une fois, idéologique à une logique par points, donc une individualisation de la retraite.
Ça avait été annoncé par Emmanuel Macron.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est
surprise.
Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que personne ne le demandait. C'est-à-dire que c'est pas une forte demande. Même à la limite, le patronat, il est plus sur une logique. Le patronat ou les plus libéraux sont plutôt sur une logique de marché, sur une logique de type compte notionnel ou de capitalisation de la retraite sur un mode assurantiel. Là, il y avait un choix d'individualiser à nouveau, encore une fois, avec une retraite par points. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est pas le débat ni la concertation, c'est que on découvre par exemple dans le projet de loi PAC qu'il y a des petits éléments sur l'épargne retraite qui n'ont jamais été discutés dans le grand sujet global sur les retraites. Donc, le gouvernement n'aime pas les grèves perlées, faudrait pas qu'il nous fasse une réforme perlée. Donc, premièrement, loin de la concertation. Et deuxièmement, on n'a pas le point d'atterrissage. C'est quoi une retraite par points ? Comment on va pouvoir se projeter pour faire des calculs et pour regarder ce qui va être mené ? On nous dit, d'ailleurs, qu'une retraite par points sera inévitablement plus faible qu'une retraite dans le système actuel. Donc si c'est pour que nous perdions tous en termes de pension et que nous perdions tout en niveau de pension et que nous perdions tous en termes de solidarité et de répartition intergénérationnelle, on aura tout perdu. Donc ce dont on a besoin, maintenant que la concertation, on va dire, elle a été débattue sur les grands principes, c'est que maintenant le gouvernement nous dise concrètement, ma retraite par points, elle prendra cette forme. Les conséquences que cela aura pour des régimes particuliers ou pour des statuts spécifiques, ça sera celle-ci, celle-là, celle-là. De manière à ce que l'ensemble des Français puissent avoir une simulation de quel serait leur niveau de retraite et de pension si le système par points était mis en place demain en lien avec leur parcours existant. Pour l'instant,
Pascal,
on n'a pas le point d'atterrissage. C'est extrêmement problématique parce que si le point d'atterrissage c'est le projet de loi, après 8 mois de concertation et qu'on n'a pas débattu des éléments concrets, on pourra se poser la question de la fiabilité de la concertation.
Mais vous prenez en compte vous-même le fait que on n'est plus du tout comme il y a 20 ans, 30 ans, temps de votre prédécesseur André Bergeron, avec des gens qui mourraient souvent très peu de temps après avoir pris leur retraite. Là, on va avoir des gens qui vont pas prendre 20, 30 ans de retraite.
Mais l'ensemble de nos régimes se sont adaptés à ces problèmes-là. Vous savez, c'est le même débat quand on dit la fonction publique, le monde a changé. Mais la fonction publique, comme les systèmes de retraite, comme la sécurité sociale dans son ensemble, elles ont à chaque fois, elles se sont adaptées aux besoins nouveaux et aux évolutions de la société. Alors des fois, peut-être en prenant un peu de retard, d'autres en prenant plutôt de l'avance, mais en l'occurrence à chaque fois, encore une fois, la retraite c'est avant tout une logique quelque part assurantielle, j'allais dire de salaire différé ou de mise en place à un moment donné de ce à quoi on aura droit au moment où on s'arrêtera de travailler. Donc inévitablement elle tient compte tant des aléas économiques que des aléas de parcours que de l'évolution justement de ces parcours de vie et de ces parcours économiques qui existent dans nos sociétés. peut-être éventuellement avec quelques mois ou quelques années de retard d'adaptation, mais en général, elle n'est que le reflet, justement, de l'évolution de la société.
Je parlais tout à l'heure d'un de vos prédécesseurs, donc André Bergeron. Là, je vais parler de votre prédécesseur immédiat, Jean-Claude Mailly. On a appris qu'il allait travailler pour Raymond Soubi, donc l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, mais aussi de bien d'autres, d'ailleurs. Ça vous a étonné? Vous avez un jugement?
Non, j'avais eu l'information, en l'occurrence, par Monsieur Soubi du fait qu'il y allait avoir un contrat entre l'entreprise de Monsieur Soubi et l'entreprise qu'a créé Jean-Claude Mailly. Donc quelque part ça les regarde. Moi, écoutez, Jean-Claude Mailly nous avait dit vous entendrez plus parler de moi une fois que je serai parti secrétaire général de FO. Je trouve qu'on entend énormément parler de lui ici ou là.
C'est peut-être pas lui qui a fait un communiqué pour
maintenant,
ça.
Maintenant, écoutez, ils font leur affaire entre eux. Alors là, franchement,
c'est vrai qu'il y avait deux lignes à FO, qu'il y avait la vôtre, ligne dure et puis une ligne...
S'il y avait deux lignes, il y aurait eu deux candidats. Comme il y a eu deux candidats du temps justement de l'élection de Jean-Claude Mailly, comme il y a eu deux candidats du temps de l'élection de Marc Blondel. Aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est que le Congrès confédéral, il y a un mois et demi, il sort avec une résolution générale, une feuille de route qui est votée par 3500 délégués à plus de 99%. Donc, ça montre bien qu'il y a une adhésion totale sur le mandat qui a été donné et construit par l'ensemble des syndicats, et donc qui est une organisation qui est réellement unie. Maintenant, Force ouvrière, heureusement, c'est la diversité, chacun peut s'exprimer, mais quand il faut se retrouver sur l'essentiel, on s'est toujours retrouvé, la preuve à 99%.
Merci Pascal Pavageau. Dans un instant, la page culture avec mes invités Jacques Attali et Vanessa Caffin, puis Élodie Fondacci et...